Vous écoutez, on lit pour vous.
Faire sortir la clientèle du divan. Un dossier de Stéphanie Bérubé paru le 6 septembre 2025 dans la presse. La pandémie, le télétravail, l'inflation et la multiplication de l'offre, notamment, forcent les institutions artistiques à rivaliser d'ingéniosité dans leur stratégie pour attirer la clientèle. Le prix qui convaincra. 4 opéras à partir de 118 $, dit l'Opéra de Montréal. Billets à partir de 30 $ au parterre, annonce l'Orchestre symphonique de Montréal, OSM. Dans le hall de la Place des Arts, on peut difficilement rater ces offres sur les panneaux numériques. Si les institutions culturelles mettent de l'avant leur promotion, c'est que le prix compte pour les consommateurs. De tout temps, on a eu l'impression que si on voulait attirer les spectateurs ou les visiteurs, il fallait que les prix soient bas, confirme François Colbert, titulaire de la chaire de gestion des arts Camel et Rémi Marcoux de HEC Montréal. Est-ce que le prix d'une entrée compte plus présentement? Oui. Il y a eu l'inflation, mais les salaires ont aussi augmenté, rappelle François Colbert, qui ajoute que les consommateurs de culture font des choix dans la gestion de leurs loisirs selon des critères hautement subjectifs. Un achat qui paraît frivole pour l'un sera tout à fait justifié pour l'autre. Le budget consacré aux loisirs comprend aussi les sorties sportives, de bien-être et les restaurants. Selon François Colbert, le consommateur culturel d'aujourd'hui est assez semblable à celui d'il y a 30 ans, malgré la multiplication de l'offre. Par exemple, les parents consomment un peu moins de culture pour se consacrer à leur vie familiale et reviennent ou découvrent l'art un peu plus tard dans leur vie. Les jeunes dépensent leurs dollars culturels différemment, poursuit le professeur Colbert. Celui qui a l'occasion d'aller voir Taylor Swift ne laissera pas passer cette chance, malgré le prix exorbitant du billet. Les jeunes vont trouver l'argent pour aller voir un spectacle dans un festival qui coûtera plus cher que d'aller au théâtre ou voir l'orchestre symphonique, précise le professeur. C'était vrai par le passé, c'est encore vrai. Mais attention! Il y a bel et bien quelque chose d'unique qui se trame actuellement. Si l'inflation des dernières années a eu un impact sur les dépenses culturelles, la pandémie a laissé des traces profondes dans nos habitudes de consommation. La directrice générale de l'Orchestre symphonique de Montréal estime que son plus grand compétiteur actuellement n'est pas l'établissement culturel voisin, mais le télétravail et l'inertie qu'il favorise. Mon défi principal, c'est quelqu'un qui habite sur la rive sud et qui travaille de la maison, illustre Mélanie Lacouture. Ça, c'est nouveau. Comment je fais pour faire sortir ces gens-là? Nos habitudes ont changé, confirme la directrice générale de Culture Montréal, Emmanuelle Hébert. À partir du moment où les gens font du télétravail, revenir au centre-ville ou en périphérie pour voir un show, peu importe le coût du billet, c'est un frein. Les abonnements sont moins populaires, illustre-t-elle. Les gens achètent plus leurs billets à la dernière minute. Organisme proactif. Les entreprises culturelles ne restent pas les bras croisés face à cette nouvelle donne. Les initiatives pour attirer les gens et un nouveau public sont nombreuses. D'abord, il y a les stratégies autour du prix. À l'OSM, 20% des billets se détaillent désormais 30 $ pour l'ensemble des représentations, peu importe l'âge du spectateur, et ces billets ne sont plus limités au balcon. C'est certain que ça part du constat qu'on a perdu des clients post-pandémie, confie la directrice générale de l'orchestre Mélanie Lacouture. Environ 15% des spectateurs ne sont pas revenus après la crise. Pour financer ces billets à 30 $, l'orchestre offre notamment ses concerts pop en tarification dynamique, pas de rabais cette fois. Vous voulez aller voir Sale Barbe avec l'OSM cet automne? Un billet au parterre est à 180 $ et la catégorie prestige est à 250 $ le billet. Le siège le plus économique se détaille 90 $. La directrice ne le cache pas, la clientèle des pop est habituée à payer plus cher. Les trois concerts de Half Moon Run du printemps 2025 ont été présentés à guichet fermé. Cette clientèle se déplace une fois pour ce concert-événement. La stratégie des billets à 30 $ vise plutôt à fidéliser les amateurs de musique classique. Mélanie Lacouture confirme « Mon objectif est qu'on évite d'aller au-delà d'un certain prix pour le classique. » Ça tombe bien, car les spectateurs que nous sommes avons en tête le prix que vaut la sortie. Le prix moyen que les gens sont prêts à payer est resté assez stable entre 2018 et 2023, dit Emmanuelle Hébert, directrice générale de Culture Montréal. C'est la réalité des consommateurs. Mais, comme tout le reste, les prix explosent en culture. Durant la dernière année, les coûts ont augmenté de 30% à 40%, poursuit-elle. Les coûts autour de la culture. Vincent de Repentigny le confirme. Même changer une poignée de porte coûte plus cher, illustre le directeur du développement et co-directeur du théâtre Prospero que nous avons rencontré sur place. Le bâtiment du Prospero n'a pas été mis à niveau depuis une trentaine d'années. Si les coûts de fonctionnement les plus triviaux augmentent, alors il faut remplir les salles. Prospero a mis en place il y a 2 ans un système de billetterie flexible, un concept qui gagne en popularité en culture selon lequel le spectateur décide du prix qu'il paiera, ce qui permet de s'affranchir des catégories d'âge. Le spectateur quinquagénaire à plus faible revenu aura lui aussi accès à des tarifs réduits. On voyait que les salles n'étaient pas à pleine capacité, alors on s'est demandé comment faire pour que les gens prennent un risque artistique, mais pas un risque financier? Poursuit Vincent de Repentigny. La question est d'autant plus pertinente pour un établissement comme le Prospero, dont la programmation sort des sentiers battus. D'où l'idée que la barrière financière n'en soit pas une, ajoute son co-directeur, très à l'aise à parler de dollars culturels et de stratégies de développement dans le domaine artistique. Il n'y a rien de plus décourageant que de payer un montant assez important par rapport à ton budget personnel et de finir par te dire que tu n'en as pas eu pour ton argent, poursuit-il. Si c'est ça la conversation, alors on ne remplit pas notre mandat. Si on veut ouvrir la porte à d'autres types de publics, que ce soit en diversité d'âge ou de provenance, la barrière économique est un énorme frein. Parmi les observations faites depuis 2 ans par le Prospero, un même spectateur ne va pas nécessairement toujours choisir le même tarif. S'il n'est pas certain d'aimer le spectacle, il risque de payer son billet moins cher. Autre facteur, des gens qui ont une situation financière instable ajustent le prix payé selon les moments de l'année. Globalement, le système est un succès, puisque le taux d'occupation du théâtre est passé de 70 % en 2023 à plus de 93 % à la saison 2024. Ce faisant, les gens continuent de prendre des risques et Prospero a créé des liens avec eux. Ils reviendront. Le nombre d'abonnements a triplé et le prix moyen payé par billet au final a augmenté de 4 $. Les freins à la sortie. Dans un récent sondage léger, réalisé en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal, la principale raison évoquée par les Montréalais qui ont réduit leur participation aux activités culturelles est la hausse du coût de la vie en général. Seulement 14 % des répondants ont indiqué que c'est la hausse du coût de ces activités, comme le prix du billet, qui a mené à ce recul. Ce même sondage Les arts au cœur des Montréalais, nous apprend que 34 % des gens participent moins aux activités artistiques pour lesquelles ils doivent se déplacer qu'il y a 5 ans. Environ un autre tiers, 31 % a répondu avoir conservé le même taux de participation, alors que 24 % l'ont augmenté. En savoir plus, source, Observatoire de la culture et des communications du Québec. 75 % En 2018, 75 % des revenus de billetterie étaient récoltés par environ 30 diffuseurs. 5 ans plus tard, ils sont maintenant 15 à se partager cette même part des revenus. Les records de fréquentation et de revenus de billetterie atteints en 2023 s'expliquent en grande partie par la performance exceptionnelle de quelques grands diffuseurs qui ont capté une vaste part du marché. Vous écoutez « Institutions culturelles faire sortir la clientèle du divan », un dossier de Stéphanie Bérubé, paru le 6 septembre 2025 dans la presse. Seul ensemble. La sortie culturelle est aussi l'occasion de partager un moment avec d'autres spectateurs, connus ou inconnus, de prendre une pause d'écran. Et de solitude. Le Musée des beaux-arts de Montréal, MBAM, a lancé ses soirées buvettes qui attirent une large clientèle, beaucoup de couples. Le Musée des beaux-arts du Canada veut aussi bonifier son offre de restauration pour que les visiteurs puissent siroter un bon verre de vin avant ou après la visite d'une exposition. À Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec propose chaque mois des séances de muséo-yoga matinale. Ce sont d'excellentes stratégies, estime le professeur François Colbert, car elles permettent à des clientèles qui n'y seraient peut-être pas allées de se familiariser avec les lieux. Il faut voir aussi que sortir, même aller au cinéma, c'est une activité sociale. On y va avec quelqu'un, dit le titulaire de la chaire de gestion des arts Carmel et Rémi Marcoux de HEC Montréal. Le professeur Colbert cite un sondage mené par l'Orchestre symphonique de Dallas auprès de sa clientèle qui révélait que le quart des gens allaient voir un de ses concerts pour sortir avec un ami ou un conjoint. C'était la première raison invoquée. Seulement 15 % de la clientèle de l'orchestre disait avoir la musique comme vecteur principal de consommation. Un antidote à la solitude. François Colbert cite une autre étude de l'Université York qui date des années 1990, dans laquelle des répondants, des parents, avaient confié avoir pris un abonnement au théâtre pour s'assurer de faire 5 sorties en amoureux dans l'année. Ils avaient choisi un théâtre qu'ils aimaient, où ils se sentaient bien, sans égard à la programmation. Quand on est seul, la sortie culturelle n'est pas moins importante. Selon les chiffres de la chaire de gestion des arts, au Québec, environ 20 % des gens qui vont voir un spectacle y vont seuls. Mélanie Lacouture connaît très bien ces données. La sortie culturelle est l'antidote à la solitude et l'Orchestre symphonique de Montréal, OSM, a bien l'intention de faire vibrer cette corde prochainement. On entend beaucoup parler de solitude. Que les gens passent trop de temps sur les écrans, dit la directrice générale de l'orchestre. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Nous, on offre la contrepartie de ça. Le directeur général du Musée des beaux-arts de Montréal tient un discours semblable. Sortir est essentiel, rappelle Stéphane Aquin, qui énumère les bienfaits indéniables de côtoyer l'art pour vrai et de près. Il y a des succès d'années facilement abordables à l'expérience cinéma, dit-il. Tu peux t'acheter du pop-corn à l'épicerie et te louer un film. Il n'y a pas de succès d'années à l'expérience du musée. De plus, lorsqu'il est question de dollars culturels, le musée est difficile à battre, soutient le directeur, qui offre cet argumentaire. Contrairement au théâtre ou au concert, les visiteurs du musée ont une liberté de mouvement et de temps. Ils décident quand ils arrivent et quand ils partent. Ils restent aussi longtemps que souhaité. Ils ont la liberté et une variété d'expériences. L'expérience du musée n'a nul autre pareil, tranche Stéphane Aquin. Faire vibrer notre peur de passer à côté. Au théâtre Prospero, on se bat aussi contre cette force d'inertie moderne. On veut dire aux gens qu'il manque peut-être quelque chose, explique Vincent de Repentigny, co-directeur de Prospero, qui mise sur le fait que tout le bruit provoqué autour d'un spectacle va faire vibrer la FOMO de spectateurs. Acronyme anglais de « Fear of Missing Out », cette peur de rater un événement. Ce que tu vis, c'est quelque chose de vivant. Tu viens, tu t'assois, tu prends un verre, tu jases avec du monde, tu sors du spectacle, tu as une discussion avec le public, tu as le goût d'aller prendre un autre verre, résume Vincent de Repentigny, qui aborde un des enjeux de plus en plus discutés par les organismes culturels, l'importance de l'expérience autour de l'œuvre. Chez Danse Danse, on est exactement dans cette réflexion. Pierre Desmarais, directeur artistique et général de Danse Danse, souligne « On n'est plus dans le spectacle vivant seulement, on est dans l'expérience. On doit aller avec cette mouvance-là, il faut être agile et s'adapter. » Les salles où sont présentés les spectacles sont ouvertes plus longtemps, pour étirer la soirée avant et après la représentation. On envisage parfois d'ajouter un DJ. Les soirées de discussion qui suivent le spectacle ne sont plus seulement le vendredi, mais désormais le mercredi aussi, car les gens travaillent davantage à l'extérieur de la maison cette journée-là. Il faut penser comme le consommateur, dit Pierre Desmarais. Dans cette mouvance, l'organisme mise fort sur le service à la clientèle pour fidéliser ses spectateurs. Un exemple. Un abonné peut maintenant échanger son billet ou se faire rembourser s'il ne peut pas venir au spectacle. « Ça a eu un immense succès », dit Pierre Desmarais. « Les abonnés ont acheté plus de billets avec cette protection en poche. Danse Danse a reçu 3 demandes de remboursement en 2 ans. » En savoir plus, source Institut de la statistique du Québec. 13,3 millions. Pour l'année 2024, on a calculé 13,3 millions d'entrées dans les musées du Québec. On était à 17 millions au plus fort de la fréquentation en 2017. 5 questions pour mieux comprendre nos dépenses culturelles. Ce n'est pas toujours facile de trouver un point de rencontre entre le besoin de rentabilité des entreprises artistiques, celui de renouveler le public et l'envie toute simple de proposer des œuvres qui transforment. Piste de réflexion. Fidéliser par la gratuité. Le Musée des beaux-arts de Montréal, MBAM, fait partie du programme CANO, élaboré par l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Celui-ci permet aux nouveaux citoyens et résidents permanents canadiens d'avoir accès gratuitement au musée la première année et à des tarifs avantageux pour les 4 années suivantes. Le musée, l'ensemble des musées, offre aussi des plages horaires sans droit d'entrée. À force de multiplier les options de gratuité, est-ce que ça pourrait créer une habitude? La gratuité est liée à une vision à long terme, répond Stéphane Aquin, directeur général du MBAM. On veut que le musée soit connu, détaille-t-il. On veut que les générations montantes s'y sentent bienvenues. On veut créer des habitudes, de la fidélisation. La diversité artistique est-elle à risque? Il y a des salles où ça va bien et où les publics reviennent, et il y a des secteurs pour lesquels c'est plus difficile, constate Emmanuelle Hébert, directrice générale de Culture Montréal. Pour les valeurs sûres, les salles sont remplies. Les gens font des choix, dit-elle. Ils prennent moins de risques. Selon elle, les endroits plus nichés vont bien également. Entre les deux, il y a un risque d'homogénéisation dans la programmation, parce que les programmateurs ont des obligations. Ça peut mener à une diminution de la prise de risque à la fois chez les consommateurs et chez les programmateurs. C'est ça qu'il faut éviter. Les spectateurs sont-ils plus frileux? Ce qui est plus difficile à aller chercher en ce moment comme investissement culturel de la part du citoyen, c'est la petite audace culturelle, dit Julie-Anne Richard, directrice générale du regroupement de diffuseurs Rideau. On voit un déplacement. Depuis 20 ans, on voit une augmentation de la présence des spectateurs chez les diffuseurs de 2000 places et plus, explique-t-elle. Une partie du public achète donc des billets plus chers. Est-ce qu'on valorise moins le produit culturel québécois, demande-t-elle à voix haute. Parce qu'on est prêt à payer 500 $ pour aller voir un grand spectacle américain, alors que ça nous apparaît vraiment cher de payer 5 fois 100 $. Comment aller chercher ce public qui hésite? Ce n'est pas simple, car la compétition est forte. L'offre culturelle est vaste et, si on inclut les dépenses de loisirs et bien-être dans le même portefeuille, la culture pâtit parfois, selon Julie-Anne Richard de Rideau. Plein de petites choses qui n'existaient pas avant viennent gruger dans notre budget culturel, dit-elle. Elles deviennent parfois plus importantes que d'avoir des expériences culturelles. Pour cette raison, les diffuseurs doivent faire des offensives ciblées selon les publics visés. On est conscient que l'intelligence d'affaires est essentielle pour développer des stratégies qui permettent de bien rejoindre le public avec ses capacités de payer, dit-elle. L'art est-il devenu trop cher? En culture, personne ne s'en met plein les poches, tranche la directrice générale de Culture Montréal, qui évoque la hausse des coûts de production. L'enjeu du dollar culturel est réel, concède Emmanuel Hébert, et il doit être une responsabilité partagée. Ce n'est pas aux citoyens à absorber l'ensemble de la hausse des coûts, poursuit-elle. Les bailleurs de fonds publics ont leur bout à faire. C'était « Institutions culturelles faire sortir la clientèle du divan », un dossier de Stéphanie Bérubé, paru le 6 septembre 2025 dans La Presse.
Demandez votre 100 $ pour avoir payé votre pain trop cher. Un texte de Gabriel Côté, paru le 11 septembre 2025 dans Le Journal de Montréal. Tous les Québécois qui ont payé leur pain trop cher entre 2001 et 2021 peuvent désormais s'inscrire en ligne pour obtenir une indemnisation qui pourrait atteindre jusqu'à 100 $ par personne. Le site du règlement dans l'affaire du cartel du pain emballé, qui nous a tous fait payer notre pain au moins 1,50 $ trop cher pendant des années, est en ligne depuis jeudi le 11 septembre 2025 à cette adresse www.règlementpainquébec.ca. La date limite pour s'inscrire est le 12 décembre et aucune preuve d'achat n'est requise. Pour rappel, l'Oblat avait admis en 2017 avoir participé à un stratagème de fixation des prix du pain, une stratégie illégale qui aurait permis aux entreprises ayant mis la main à la pâte d'empocher des milliards de dollars. En 2024, l'Oblat s'est entendu pour verser 404 millions de dollars aux consommateurs. La chaîne avait également déjà distribué 96 millions de dollars sous la forme de cartes cadeaux de 25 $ il y a quelques années, ce qui porte le total du règlement à 500 millions de dollars. Les Québécois se partageront 22 % des 404 millions de dollars de l'Oblat, le reste ira ailleurs au pays. Cette histoire de cartel du pain est toutefois loin d'être terminée, alors que d'autres entreprises sont visées par l'action collective, dont Sobeys, Metro, Walmart, Tigre Géant et Canada Bread. Aurons-nous 100 $? Dans les affaires comme celle-ci, la somme obtenue par chaque consommateur dépend du nombre de réclamations enregistrées. Pour le cas qui nous occupe, les Québécois se partageront une cagnotte de 89 millions de dollars et les consommateurs qui ont déjà obtenu une carte cadeau de 25 dollars auront droit à un remboursement de 25 dollars de moins que les autres. Il faudra également soustraire du montant global les frais administratifs et les honoraires des avocats. Les deux cabinets responsables du dossier au Québec réclament près de 21 millions de dollars, mais cela n'a pas encore été approuvé par la Cour. C'était « Demandez votre 100 dollars pour avoir payé votre pain trop cher », un texte de Gabriel Côté, paru le 11 septembre 2025 dans le Journal de Montréal.
Ce que le monde doit au LGBTQ+, Vinci Thomas. Un texte de Christian Saint-Pierre, paru le 23 août 2025 dans Le Devoir. Journaliste français ayant vécu plusieurs années à Montréal, Vinci Thomas dépeint dans Ce que le monde doit au LGBTQ+, 30 personnalités LGBTQ+. De l'Antiquité à l'ère contemporaine, de Sappho à Thomas Joly, le livre vise à stimuler nos mémoires contre l'oubli et à sortir de l'ignorance. Pour changer quelques perspectives, l'auteur retient des destins aussi passionnants que méconnus, des récits qui mettent en scène la discrimination et le courage, mais surtout l'inventivité d'individus dont l'apport à l'humanité est sans contredit historique. On retrouve quelques figures plus populaires, comme le scientifique Alan Turing, l'écrivaine Virginia Woolf, l'acteur Rock Hudson et la joueuse de tennis Billie Jean King. Mais on découvre aussi avec fascination les parcours de gens moins connus, comme le poète Abu Nuwas, le médecin James Miranda Barry, la peintre Rosa Bonheur et l'architecte Luis Barragán. Bref, mais fouillé et captivant, les portraits montrent clairement que notre passé ne tourne pas uniquement autour d'hommes hétérosexuels caucasiens ancrés dans leur territoire. C'était Ce que le monde doit au LGBTQ+, Vinci Thomas. Un texte de Christian Saint-Pierre, paru le 23 août 2025 dans Le Devoir.